Bienvenue à tous et à toutes dans les Unicouriens sur Radio Assivière. Programme qui vous propose des créations, reportages, documentaires ou rien.
Rien de rien.
Fait chez nous ou ailleurs.
Je ne regrette rien.
Bienvenue, vous êtes sur Radio Assivière, la radio de la montagne Limousine. On est sur l'émission Unicouriens. Du 22 au 30 juin, on a été en résidence entre artistes queer et transpédéguines à la gare de Feltin. On était un collectif éphémère composé de Cléméo Lebert, Gaët Rivière, Lou et André, aka Aquafem, réunis par Madène Moisix, artiste plasticien qui vit sur le plateau de Mille Vaches. On a passé la semaine ensemble pour se rencontrer et produire des formes plastiques et culinaires. Le vendredi soir, il y a eu une sortie de résidence pour découvrir, déguster, lire, entendre tout ce qu'on avait concocté durant les jours précédents. A eu lieu aussi le spectacle « Which is nice » de Lou et Juliette, qui faisait écho à nos recherches. C'était un beau moment de partage. Dans cette émission, on va vous partager un ensemble de textes qu'on a écrits ou qui nous tiennent particulièrement à cœur, avec comme fil rouge le thème des identités queer et LGBTQIA+. Vous écoutez l'épisode 1 sur 2. On remercie chaudement l'équipe de la gare, de Radio Vassivière et la région Nouvelle-Aquitaine de nous avoir permis de mener cette résidence et de pouvoir vous présenter cette émission aujourd'hui.
On commence déjà par un petit lexique. Femme, butch, des termes qui viennent de la communauté lesbienne pour désigner des personnes adoptant des habits ou des comportements habituellement attribués au masculin ou au féminin. Il s'agit d'une réappropriation de codes et pas d'une redite de l'hétérosexualité. Gwyn, PD, queer, initialement des insultes, ces mots ont été réappropriés pour la communauté pour en faire une fierté. Leur utilisation est réservée aux personnes concernées. En anglais, queer veut dire tordu, bizarre. Non-binaire. Une personne qui ne se reconnaît pas dans la binarité masculin qui régit nos perceptions normées du genre. L'identité non-binaire recouvre de nombreuses identités. Un genre, gender fluide, non-binaire transmasque, non-binaire transfemme. Passing. Le fait d'être perçu, aux yeux des autres, comme une personne cisgenre. On dit par exemple « il passe » ou « il a un bon passing ». TPG représente la communauté transpédéguine. Transition, processus de modification de sa manière de se présenter aux autres, socialement et ou physiquement. Selon les individus, une transition peut inclure un changement de style vestimentaire, de prénom, au niveau hormonal, des opérations chirurgicales. Transgenre et cisgenre. Trans correspond à une personne qui ne se reconnaît pas dans le genre homme ou femme assigné à la naissance. Cis correspond à l'inverse, une personne qui se sent en accord avec son genre assigné à la naissance. Avant de se lancer, on vous prévient que certains textes contiennent des scènes de sexualité, de nudité, des mentions d'homophobie ou de transphobie.
Je vais lire un court passage de « Sortir de l'hétérosexualité » écrit par Juliette Drouard, auteurice et activiste. Ce livre a été très important pour moi et je l'ai prêté à toutes mes copines. Il y a quelque chose en moi qui n'a jamais cru à l'hétérosexualité. Je veux dire, à l'amour hétérosexuel. Quand une meuf me disait qu'elle était amoureuse d'un type, ça me laissait totalement perplexe. Vraiment ? Un goût si prononcé pour l'enfermement et la dévalorisation de soi ? Vraiment ? Ça te plaît de rester sur le banc de touche à regarder un centre qui ne sera jamais toi-même? Ça ne te dérange pas, les abus sexuels, le ménage, la logistique, le réconfort et le soin à sens unique? Ok, il y avait un peu de jugement et d'amertume de ma part. C'est vrai, désolée. Je venais de débarquer, j'étais mineure, je n'avais qu'une position, assise. Et on essayait de me faire rentrer des idées dans la tête, que j'ai dures, qui me contraignaient fort. Grand 1. Sur la base de tes organes génitaux, nous avons établi pour toi un programme à vie, et en plus un programme pourri appelé « être une femme » ou « être un homme ». C'est pile ou face, parce qu'on s'est dit que deux équipes, les bourreaux et les victimes, c'est bien pour rejouer toujours les mêmes scènes de domination. Grand 2. C'est un jeu qui se pratique partout, dans la rue, dans les chiottes, dans les cours de récré, mais le but ultime, c'est de le pratiquer quotidiennement, chez toi, dans ton salon ou dans ta chambre, avec un membre de l'équipe opposée. Ça s'appelle le couple. Grand 3. C'est ça l'amour, et aimer, c'est ce qu'il y a de plus beau. Vous voyez, moi qui voulais devenir une personne et entretenir des relations avec d'autres personnes, j'étais contrariée. On est plusieurs à être alors restés sur le banc de touche, à regarder dubitativement nos organes génitaux. On est si peu de choses. Mais je ne suis pas restée à juger celles qui s'en sortaient mieux que moi sur ce plateau de jeu arbitraire. Je me suis, comme qui dirait, insérée socialement. J'ai fait ma petite cuisine personnelle. Comme je crois qu'on le fait tous face aux règles iniques et absurdes, susmentionnées, et qu'on le fait tous assez inconsciemment, sinon la lucidité nous brûlerait les yeux ou nous jetterait des balcons. Au début de l'adolescence, donc, avec l'accélération du grand tri, j'ai pris ma vie en main. Je me suis attifée comme une meuf, talons, cheveux longs, vêtements, maquillage. J'ai fait un peu de séduction hétérosexuelle, j'ai été tripotée et pénétrée mesurément. Sans en retirer beaucoup de plaisir physique, mais en tirant une satisfaction sociale à trouver une place, à partager des émotions, à créer du lien là où je le pouvais, et à partager mes expériences avec les autres. Comme quoi, les émotions, c'est assez relatif. Bref, j'ai performé un genre comme tout le monde, je n'étais d'ailleurs pas la plus douée. Le cœur n'y était pas, ce n'était pas le rôle de ma vie. C'est d'ailleurs ce qui a foiré ce décalage, le fait de me rendre compte de la scène, du théâtre, de la comédie du « il était une fois, deux sexes, blablabla ». J'ai dit « foiré », mais c'est ce que je considère aujourd'hui comme ma plus grande réussite. Je n'irai pas jusqu'à dire « ma réussite », car qui sait à quoi ça tient. Et de toute façon, même si je voulais formuler des remerciements, peu de gens veulent être remerciés d'avoir créé un terreau fertile aux transpédéguines. À tort. L'amertume m'est petit à petit passée. En effet, mes privilèges matériels d'être blanche, mince, valide et de classe moyenne, ainsi que mon passing de femme hétéro, c'est-à-dire qu'on me percevait comme une femme, m'ont permis d'acquérir un socle de sécurité. Des études, un job, un appart. J'ai pu larguer les amarres et d'être une femme, et arrêter d'être mi-gouin, mi-raisin. J'ai pu me raser la boule, me faire des piqûres de testo dans le cul, crier « nique ton père » et avoir des relations avec tout sauf avec mes bourreaux, c'est-à-dire avec toute personne qui ne se définissait pas en tant qu'homme cis-hétéro, quel que soit ce qu'on avait décrété pour lui ou pour elle à la naissance. Ces jugements sont aussi passés quand j'ai compris que les femmes n'aiment pas les hommes, mais des personnes, malgré le fait que celles-ci aient été construites comme des hommes dans un champ des possibles restreint par la propagande hétérosexuelle. Quand j'ai compris aussi que beaucoup de femmes n'ont pas le choix parce que le minimum syndical, avoir à manger, un toit et la liberté de transmettre à des enfants, passe par les mains de ceux-là dans notre société. Sans amertume et sans jugement, donc. Non, je ne crois pas en l'amour hétérosexuel. Je ne crois pas qu'il existe spontanément deux genres ou que nos organes génitaux disposent d'une volonté spécifique, et encore moins d'un programme d'habitat, d'amour et de division du travail. Autrement dit, je ne crois pas que le sexisme, par la création des deux sexes sociaux et l'obligation de leur appariement à vie au profit des uns, soit une nature d'être. Je crois qu'il existe des gamètes et de multiples possibilités de les faire se rencontrer quand l'envie qu'une nouvelle personne expérimente la vie nous prend, mais qu'au-delà de ça, rien ne nous oblige. Partant de là, pas de panique. S'il ne faut pas sous-estimer la violence des punitions et l'effectivité des contraintes, il ne faut certainement pas surestimer la difficulté à se déprendre d'être femme ou d'être homme pour devenir une personne et pour organiser notre vie, nos liens, différemment. Quand on réussit à aimer des hommes cis-hétérosexuels en dépit du fait qu'ils soient des hommes et à accepter l'exploitation gratuite de son travail, on peut sincèrement tout faire. Et le goût dans la bouche sera celui du miel.
Je vais lire un nouveau texte de André aka Aquafemme. C'est une carte postale qui est éditée par Youprod. Mon amour, tu n'es pas là. Quand j'y pense, ça me serre la gorge dans le fond, tellement que je ne sais pas si c'est l'empreinte du manque ou de ton goût de ceinture rose. Souviens-toi, c'est ici que tu m'as fait découvrir l'odeur sur tes doigts, océane du fond de ma chatte. Je pense si fort à toi, le paysage coule, ma mouille est lacrymale. XOXO.
Je vais lire un extrait du fanzine Transition de Madeleine Moisix, qui est un artiste qui vit sur le plateau de Mille Vaches et qui est l'artiste à l'initiative de la résidence à la gare à Felletin, durant laquelle on fait cette émission de radio. Quand j'ai acté pour ma santé mentale que j'allais devoir faire mon coming out trans et prendre en compte mes difficultés en tant que personne autiste, j'ai pris conscience de toutes les embûches qui se dressaient devant moi. De la violence surtout, cette douleur qui donne envie de vomir quand on est forcé de dire aux autres « je suis trans ». La possibilité de s'exposer à l'incompréhension, la haine, le déni et parfois l'obligation de devoir se justifier. Je prends des hormones, je vais faire des changements administratifs, afin de légitimer notre parole puisque dire « je suis non-binaire » ne suffit pas. Puisqu'on ne veut pas comprendre que ce n'est pas qu'un concept, que c'est une réalité du quotidien et que nos existences et vécus sont niées. Ayant à présent un passing masculin avec la prise de testostérone, quand je n'omets pas délibérément de dire que je suis trans, je dis à celles qui ne veulent pas entendre la complexité, la richesse, la multitude de l'identité transgenre non-binaire que je suis un garçon. Et encore une fois, je me cache pour satisfaire leur étroitesse d'esprit. C'est toujours douloureux de ne pas être comprise et vue. Nous sommes forcés de nous adapter pour survivre en milieu hostile. Sous des masques, des vêtements, des attitudes et des mots, depuis toujours, nous élaborons nos stratégies. Certaines sont de l'ordre du camouflage, tandis que d'autres sont celles de l'évitement. C'est terrible de vivre dans un monde qui nous nie. Je m'amuse d'entendre des « bonjour monsieur », mais je préférerais entendre des « bonjour tout court ». Je me dis « ah s'ils savaient », que je n'avais pas de pénis et que sous mon t-shirt il y a des seins, j'aimerais bien voir leur tête. S'ils savaient qu'il y a quelques mois seulement je n'avais pas de barbe et que ma voix montait dans les aigus naturellement. Je me sens fort et solide d'y être arrivé et ces changements me rendent heureux, de pouvoir être mieux dans mon corps et dans ma tête, de reprendre du pouvoir sur mon corps dont j'ai été dépossédée. En m'outant queer, trans, PD, j'ai aussi pu trouver une communauté. Des gens pour qui, dans leurs yeux, tout ça n'a aucune importance. Seul ce que je dis, que je suis, compte. Je suis heureux d'exister avec elles, de savoir qu'elles existent, de savoir qu'on sait. Mais lorsque je me retrouve arraché, remis en place, confronté au vrai monde, à la réalité, la difficulté d'être trans se rappelle à moi brutalement. Seule ma réalité biologique fait office de vérité pour les transphobes. Alors quand elles savent que je suis trans, même si j'ai dit que j'étais un garçon, je n'en suis pas un. Et quand elles ne savent pas, je me joue d'eux pour me protéger, pour avancer tranquillement dans les rues, les rayons, sur les routes. Dans leur monde, notre parole ne compte pas. Ce vécu n'a aucune valeur, ma vérité n'est pas la leur, alors elles la nient. Alors comment on fait pour exister dans un monde qui nous nie ? On se camoufle et on se pare d'armure. On trouve nos espaces refuges, on invente nos cabanes qui sont aussi des forteresses. J'ai toujours cette sensation de quitter le plus doux des cocons et de partir à la guerre quand je suis contraint au monde si hétéropatriarcal. Je mets mon armure, mon casque, je vous regarde, mes amix, mes amours, je serre la mâchoire pour ne pas pleurer, pour ne pas que celle de l'autre monde me voie lorsque je mettrai un pied d'or. Vous me prenez dans les bras, par la main, tendrement, vous me serrez pour me dire « on sait, courage, nous serons là à ton retour ». On a beau savoir, on a beau l'avoir vécu mille fois, cette violence, le poids du regard de celles qui pensent être normaux et veulent nous faire sentir que nous n'avons pas de place, on ne s'y fait jamais. C'est vrai que dans leur monde nous n'avons pas de place, est-ce que j'ai envie d'avoir une place dans leur monde? Je ne veux vivre comme aucune d'elles. Rien à foutre de leur job, de leur modèle, de leur économie, de leur code, de leurs icônes. Si vous ne voulez pas de nous ne voulons pas de vous. Alors laissez-nous nos espaces, laissez-nous nos cabanes, notre langage, nos parures, nos amours, et réinventez nos imaginaires puisque les vôtres nous excluent. Souvent j'aimerais fuir totalement, déserter. Mais entre choix et contraintes, me voilà soldat et je tente de visibiliser, éduquer, faire entendre, défendre même quand je n'en ai pas envie. Quand je me projette dans le futur, je me vois à la campagne, entre queer, autosuffisant au maximum. Impossible pour moi de me projeter dans un mode de vie plus normé. Je me demande parfois si c'est un vrai choix ou simplement l'unique solution qui s'offre à moi pour éviter trop de violence. J'entrevois déjà cette vie queer à la campagne et ce n'est pas par dépit, car dans nos espaces nous réinventons, la proximité avec le vivant est évidente. Comme l'écrit Lou Rivière, je ne suis pas trans dans la forêt. Et c'est là que nous pouvons exister entiers, complexes et libres.
Je vais lire un texte de Lou Rivière, paru dans PD La Revue, qui s'appelle « Je suis pas trans dans la forêt ». Trans, c'est le nom d'un trou, c'est le nom d'un fossé, un écart. Trans, c'est le nom de la distance qui me sépare d'un ensemble de fictions situées qui ont échoué à traiter mon cas. C'est le nom de l'espace qui est juste là, autour de moi, entre mon corps et le succès de l'hétéropatriarcat. Trans, ce mot « espace » prend parfois le rôle d'un pare-feu salutaire, comme une sorte de bouclier magnétique, une technologie post-quantique qui me protégerait d'un milieu inadapté à mes modalités d'existence. Une Pokéball autogérée qui, par intermittence, propulse sa qualité de membrane cellulaire diplomatique en une sorte de devenir muraille un peu flippant. Trans, c'est le nom d'une bouée, d'un satellite, d'un tram qui longe le périph', d'une ceinture d'astéroïdes, de la couche de pesticides sur la peau d'une pomme dubitative, le nom des douves d'un château fort qui processe sa vulnérabilité, du corps éthérique de Beyoncé quand elle prend une pause, du bruit de la fête chez les voisines d'en bas qui fait comme une berceuse techno un peu cosy. C'est pas moi. Ça me longe, ça m'entoure, ça se frotte à moi, ça m'épouse, ça me fait frissonner, ça me tient chaud dans l'eau des rivières au printemps, ça se déplace à ma surface, mais c'est pas moi. Trans, c'est le nom d'un rapport entre le monde et moi. Le nom d'une balise qui dit « c'est pas par là », c'est un trigger warning, un panneau sur lequel on a écrit « attention à la marche ». C'est un peu ma meilleure copine, mon ange gardien rémunéré, une sorte de contrôleuse RATP qui déciderait de ne pas me verbaliser sans dire à ses collègues que j'avais pas de ticket. Trans, c'est le nom de l'animal qui nage, court, vole, rampe avec moi dans la rue pour prévenir la dame de garder sa question pour elle. C'est le nom d'une technologie de médiation capable de faire raconter des histoires qu'on avait apprises à pas dire à l'école. Je suis pas trans dans la forêt. Je suis trans tant que tu continues à opérer une corrélation entre un appareil génital, un pronom, une géographie des poils et un rôle social. Trans, c'est le nom de ce que tu vois de moi tant que t'as pas appris à me voir moi. C'est un beau nom, un nom de feu et de serpent sacré. Trans, c'est le nom de l'écart entre moi et de ce qui aurait été plus simple que je sois, franchement, ce qui aurait vraiment arrangé tout le monde. C'est le nom de la fosse plus ou moins sceptique installée entre moi et ce qu'on a commencé à me demander d'être quelques mois avant ma naissance. Trans, c'est le nom de la différence entre la chose étrange, mouvante et pas finie que je suis, et le projet un peu ambitieux de faire coïncider la multiplicité foisonnante des formes de vie animale en deux catégories douteuses. C'est le nom d'un défaut structurel d'imagination. Cette distance, ce trou, cet écart entre la norme et moi n'existe que par rapport à cette norme. Si la norme disparaît, il n'y a plus rien pour être entre, pour être en dehors. Il n'y a plus d'écart, plus rien à nommer. Je suis pas trans dans la forêt. Dans la forêt, je suis une chose qui devient d'autres choses, qui meurt, qui parfois chante un peu, pense un peu, parfois danse, parfois pleure, parfois dort. Je n'ai rien à prouver aux politiques sylvestres. On transitionne ensemble. Le devenir forêt du monde, c'est un peu plus qu'un amoncellement de biomasse qui fait respirer une bande d'hétérotrophes en mal d'amour. C'est peut-être, plutôt, une désidentification radicale par les racines. Je suis trans avec toi tant que t'es pas à la hauteur de l'amitié des arbres. Et j'ai besoin de toi dans ma forêt.
Je vais vous lire un texte qui s'appelle Sirène, écrit par André aka Aquafem, qui participe également aux lectures de cette émission et qui était aussi dans la résidence que nous avons fait à la gare de Feltin récemment. Ces dernières années, j'ai rencontré des sirènes. Je les ai d'abord observées de loin, puis je leur ai parlé, par écran interposé ou en terrasse de café. Certaines sont devenues des amix. Grâce aux sirènes, j'ai sauvé de la noyade celle qui se cachait en moi, celle qui avait échangé sa voix contre des jambes humaines. Ces dernières années, je suis devenue féministe, puis je suis devenue queer. Un jour, je découvre dans un documentaire que sirène est un loisir, un sport et aussi un métier. Que des femmes se rencontrent, se donnent du courage, se sentent belles, vivent des événements marquants, gagnent leur vie dans des queues de sirène. J'apprends que ces appendices, parfois fabriqués à la main, sont très lourds et très chers, jusqu'à plusieurs milliers de dollars, et qu'il faut être musclé et avoir de bonnes compétences en apnée pour être capable de nager avec, surtout avec grâce. Puis dans l'océan d'Instagram, le monde merveilleux de ces créatures s'ouvre à moi. Je vois des sirènes professionnelles évoluant dans des aquariums géants, des sirènes écrivaines, Claire la sirène, des sirènes mariées à des tritons, des sirènes de toute corpulence, la communauté body positive, The Society of Fat Mermaids, et couleur de peau. Dans la dernière adaptation de Disney, Ariel sera jouée par Al Bailey, une actrice noire américaine. Je croise des rassemblements de sirènes et des concours de sirènes, des sirènes écolo, Ariel Dombasle, pose sur un rocher pour inciter à ramasser les déchets en plastique dans la mer, des sirènes couchées sur des lits ou dans des baignoires, des sirènes punk cannibales, Fugu, du groupe Sirens Carcass, se déplace à pieds joints dans son membre de tissu en vociférant « Ma queue dans ta gueule, super giclure de sirène ». J'aperçois des sirènes musclées qui portent des harnais d'inspiration BDSM, Medu Sirena, danseuse d'aqua burlesque, des sirènes sorcières, des sirènes queer ou LGBTQIA+, les mermaids et la communauté sirène gay, des sirènes avec des bonnets de Père Noël. Devant l'objectif de mon amie Hélène, alors que je commence à me définir comme lesbienne et comme femme, je pose moi-même sur un lino motif piscine, en maillot irisé, avec des couteaux, les coquillages, en guise de manucure. Une sirène allongée dans la neige m'accoste en message privé, puis une seconde apparition venue de la Méditerranée me dit « Trop heureuse de rencontrer une fille du rivage. » Ces créatures inconnues confirment ma mue. Plus tard, je fais la connaissance d'une autre femme, qui avant notre rencontre m'inspirait et aimantait déjà mes yeux derrière mon écran. Dans la série qui porte son nom, Sorcière Lisa, elle se glisse dans une queue de sirène pour nager dans les calanques. Lisa préfère être une créature plutôt qu'un être humain. La sirène, c'est la beauté et la monstruosité, celle qui perturbe son environnement. Je m'immerge dans les images queer aquatiques de Camille Ducellier. La mer monde mystérieux, à la fois nacré et turquoise, et sombre et profond, laisse le champ libre à toutes les projections, toutes les métamorphoses. Un ami me confie l'importance de sa relation au milieu aquatique dans sa quête de lui-même. Écrit son torse vertical, d'enfant sur lequel la mer glisse, encore non genré, juste une culotte de maillot de bain uni. Mon premier amour queer me parle de l'exposition Sirène Queer à Trieste, où il est question d'hybridation entre humain et animal, féminin et masculin. En italien, sirène peut s'accorder au masculin, il sireno, et de Middlesex, un roman de Geoffrey Eugénide qui conjure la métamorphose et les figures aquatiques pour dire l'intersexuation du de la héroïne. Avec une autre femme, Pauline, je me transforme à nouveau le temps d'un shooting photo. Elle dispose autour de nos yeux des strass et du fard nacré, écrit des textes qui me vont droit au cœur sur la puissance des femmes et de la mer. Dans un album jeunesse de Jessica Love, Juliane est une sirène, découvert grâce à mon amie Caroline. Un enfant assigné garçon à la naissance se fabrique une queue avec un drap et s'imagine plongé, le bas de son corps pris dans un banc de poissons. Sa grand-mère lui offre un collier de perles et le guide à une sorte de pride célébré par des créatures marines. Je dispose tous ces coquillages en moi et tisse des liens entre eux, compose mon aquarium. Après le féminisme, le queer se liquéfie doucement dans mes mains et pénètre petit à petit sous ma peau. Doucement, mes écailles se mettent à scintiller, mes branchies se déploient. Ma métamorphose a commencé.
Je vais lire un poème de Cléméo Lebert qu'il a écrit pendant notre résidence à la gare Feltin. La desloratadine est un antihistaminique de type H1, de deuxième génération. Elle a été brevetée en 1984 et utilisée depuis 2001. Elle est indiquée pour le traitement symptomatique de la rhinite allergique et de l'urticaire. L'eau froide jusqu'à mes hanches neuves de mec, j'ai pissé dans le lac et la rivière, raclé mes genoux au tapis à côté de leur lit vaseux. Ma langue s'est piquée à mon duvet en léchant la morve des fleurs. Le premier jour de l'été. Madène m'a parlé des hormones, de son corps testostéroné qui n'est plus allergique aux chats. Je me suis souvenu le sel brûlant quand la mer et l'océan fanent sous le cou, à chaque pli et sur le ventre aussi. Le lendemain. De la pulpe du pouce, j'ai compté les 12 phalanges rangées au-dessus de la paume. Devant Lou, je me suis piqué tout seul la cuisse, sous le toit où nous dormons tous. Depuis toujours, on m'a raconté un moi minuscule qui trempe des galets dans le seau salé à l'heure du goûter. Ici, je crois au miracle de la testostérone et en la robustesse de mon corps face aux vagues, mais je n'ai plus l'envie des châteaux, ni des puits creusés avec les ongles. Je me raconte mourir entre les collines, sans avoir jamais revu la plage, juste pour être sûr. Je vais lire un texte d'Élodie Petit, qu'elle a écrit en 2015, qui s'appelle « On sait plus pourquoi on vit et ça dérape ». Élodie Petit est une poétesse gwyn et queer, qui vit et travaille à Marseille. J'ai 30 ans. C'est arrivé aussi violemment que mes premières règles, aussi vite qu'un ballon de baudruche éclate au contact d'une flamme. Je vais parler de ces 10 années qui, très rapidement, nous éjectent de la vingtaine à la trentaine. Le début des marques du temps qui s'accrochent au visage, l'alcool triste des lendemains difficiles. Et comment les étudiants des beaux-arts joyeux et fêtards finissent bouffis et au RSA dans les vernissages en bord de trottoir. Qu'est-ce qui a loupé ? Y a-t-il une place pour les artistes dans cette société ? Ou comment une vocation s'évanouit en alcoolisme platonique et crise d'angoisse. Dessine-moi une bite. J'ai 20 ans et je rentre aux Beaux-Arts de Saint-Étienne. Mon sujet de prédilection est, dès le départ, la sexualité. Je remplis des carnets de queues tendues et de vagins mouillés. Je dessine des partous grandeur nature et recolle tous les livres de Martine ensemble pour en faire un livre porno. Je m'amuse énormément et ris fort au nez de mes professeurs machistes. Ces mêmes professeurs que je croise régulièrement aux fêtes étudiantes, essayant d'attraper au passage d'une élève éméchée un peu de sa bouche fraîche et innocente. Ma colère est maintenue haute grâce à certaines de leurs réflexions débiles telles que « Y en a marre de ces filles qui ont leurs règles » ou encore « Aujourd'hui on va modeler des pénis, des bites, oui allez les filles. » Bah alors on est timide ? J'écoute du punk et pense faire la peau à tous ces connards. Mais en attendant, je me prends des cuites tous les jours et ne loupe jamais un cours de dessin le vendredi à 8h, quitte à gerber aux chiottes dans la matinée. Fraîcheur existentielle, appartenance et décadence. J'ai passé 4 années à Saint-Étienne, des années d'ivresse folle et de fêtes révoltées, le pantalon sur les chevilles. Nous fumions 50 cigarettes du coucher du soleil au lever du soleil, toujours ivres, souvent drogués. Ce sentiment agréable d'une vie intense et débraillée qui différait de la vie pénible et chiante de mes oncles et tantes. Le temps n'existe pas à ce moment-là. L'été arrive après le printemps et je ne vois pas passer les hivers. J'ai trouvé un groupe et un milieu, celui des intellectuels décadents, décadentes, en plein romantisme de la projection de ce que c'est d'être artiste. Machiste bancal, dépresso artisto, blanco frustrato, raciste. À 23 ans, je suis en pleine force de mes capacités et décide de changer d'école après mon premier diplôme. J'entre aux Beaux-Arts de Lyon. Changement radical. Beaucoup de fils et filles de Bourges pour une fille de prolo comme moi. Ici, mon imaginaire punk à la bazooka ne passe pas vraiment. Ici, c'est art conceptuel, sculpture, installation. Je regarde les gens parler 30 minutes d'un tas de papiers sur le sol. Je ne comprends pas parce que pour moi, l'art, c'est s'adresser aux autres et porter un propos politique, engagé, actuel. Je commence à regretter amèrement mes vieux profs désespérés et alcoolos. Je m'adapte mal, mais j'ai avec moi cette énergie, cette jeunesse, cette colère, ces idéaux féministes. J'obtiens mon diplôme avec mention et tire fièrement ma révérence au monde de l'institution. Également à cette école de la vie, qui emploie des intellectuels frustrés pour pisser sur nos baskets devant tout le monde, sous prétexte que ça endurcit, à la non-place des professeurs femmes, pour qui c'est une lutte permanente d'essayer d'ouvrir la bouche parmi ces mâles bien en place depuis des lustres. Je ne fais pas le compte des professeurs hommes qui ont essayé de me baiser. Par contre, je me souviens de toutes ces jeunes recrues, impressionnées par le discours de monsieur, se laissant aller à une romance destructrice et déséquilibrée. Haine salée aussi du manque de sensibilité politique qui règne dans ces écoles de blancs éduqués à produire des artefacts pour bourgeois, sans ne jamais se préoccuper des alentours, sans ne jamais participer à une manifestation, mais se moquant volontiers du graphisme des enseignes de kebab et dénonçant le féminisme comme quelque chose de sale. J'aimerais que tout le monde aille se branler ailleurs et j'aimerais recommencer à me branler. J'ai 26 ans et j'ai toujours bossé à côté de mes études. J'étais une des rares dans cette école à courir pour aller servir au restaurant le midi et donc à rester jusque tard à l'atelier, les autres ayant comme papa-maman de bons horaires de fonctionnaire. J'ai 26 ans et je me rêve artiste, poète, militante féministe. Je m'installe à Paris. J'accepte un job alimentaire de 35 heures par semaine, payé au SMIC, CDD de 14 mois. Chaque jour, je marche sur les matelas des familles roms pour ouvrir la boutique dans le Marais. Je suis seconde responsable pour une marque prestige en gastronomie. Je n'ai pas de mutuelle car je suis embauchée en CDD. Je ne suis pas payée plus le week-end. Je me sens merdique. Petit à petit, j'écris moins et dessine moins. Je suis fatiguée et je me sens en grossier décalage quand je rejoins mes potes au vernissage. Ma colère se transforme en tristesse. 14 mois passent, une éternité. Triomphante, je fais la queue à Pôle emploi. Fuck, 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 fuck you. 28 ans. Je suis artiste, j'ai des milliers de choses à dire. Je trouve une maison aux portes de Paris. On habite à 6, une grande famille, un jardin, des grosses fêtes. Je suis polyamoureuse. J'écris, je lis, je voyage, je baise, beaucoup. Je bosse aux blagues dans des restos pour l'argent de poche. Une fois le chômage terminé, je trouve un taf de barmaid. Finalement, qu'est-ce que je pourrais faire d'autre ? Je bosse à mi-temps, je chourre dans les magasins. Mon système D est en place, je vis bien, toujours à Paris. Pour autant, une anxiété sourde se fait sentir. J'approche de la trentaine, c'est une bataille pour trouver des financements, exposer, tenir la route. La route de la réussite, de celui, celle qui arrive à vivre de ce qu'il, elle fait. Je suis une femme, blanche, avec les avantages que cela représente. Par exemple, trouver facilement du travail, ne jamais me faire soupçonner quand je vole dans les supermarchés. Engagée auprès de collectifs anarcho-féministes, je conserve avec moi la colère des grands jours. La lutte des classes, l'amertume de ces années d'études à côté de la plaque, pour se retrouver dans un milieu d'intellectuels construit pour les hommes. Nos futurs, le temps passe trop vite. J'ai 30 ans et je suis dépassée par les événements. J'ai 20 projets en même temps, aucun n'est rémunéré, je suis au RSA. J'aime rejoindre mes potes au vernissage où l'alcool est gratuit. Mais que faire ? Ma vie est rock'n'roll et la pression sociale se fait lourde. J'écris, je dessine, je baise, j'ai des dizaines d'amis. Un collectif d'art, un projet de maison d'édition et une boule d'angoisse est apparue dans ma poitrine. Une angoisse palpable, irrecevable, existentielle. J'ai 30 ans et j'ai l'impression de dresser un bilan permanent de ma vie et d'habiter sous le regard des autres. Tes yeux sont des flaques dans lesquelles je plante. Je suis au RSA, ce qui induit que je dois justifier de mon existence tous les 3 mois afin que l'on me verse mon maigre pécule pour vivre. Je sais faire beaucoup de choses, des sites internet, écrire des bons textes érotiques, tenir une boutique, rédiger des articles, faire des cocktails, me servir d'une caisse, gérer un bar seul, faire des affiches, maîtriser tous les logiciels de la suite Adobe, faire du montage vidéo, organiser des événements, etc. J'ai 30 ans et je continue à partir des bars sans payer et à voler dans les supermarchés. France Culture et le mythe du bon poète. J'écoute France Q souvent. On me parle de Rimbaud et de Baudelaire dans une brume romantique, la même qui a entretenu mes premières années d'artiste. L'indispensable regard du poète artiste sur la société. Qu'en est-il aujourd'hui dans un pays de droite raciste et libérale ? Qu'en est-il aujourd'hui dans une société d'art contemporain sexiste et blanche ? Il n'y a pas d'économie parallèle vivable parce qu'il n'y a pas de visibilité des marges. Celles-là qui sont la vie, celles-là même qui sont des minorités majeures. Parce qu'il n'y a pas de conscience politique. Parce que l'artiste contemporain nourrit le capitalisme et s'en gave en retour. Être une femme poète, gouine et féministe à l'heure actuelle, française, équivaut à la précarité ultime, au jet de cailloux, et à une parole limitée. La scène de la poésie contemporaine, elle-même, prise dans une spirale de pipi d'homme déjà bien territorialisée. Ouvrir les vannes et nager joyeuse. Ouvrir la voie, c'est dénoncer les faiblesses d'un système. C'est aussi généraliser une prise de conscience. Les écoles d'art sont des lieux importants et nécessaires à la création d'esprits singuliers et critiques. De plus en plus d'étudiants, d'étudiantes, queer, gwyn, trans, PD, déplacent l'autre en face. De plus en plus de professeurs questionnent l'appropriation culturelle, le sexisme, le racisme, le classisme au sein de l'institution. Il est important de parler d'argent en école d'art et de remettre à leur place les personnes qui usent de paternalisme et de pouvoir. Il est essentiel d'aimer ce que l'on fait et d'habiter pleinement les lieux que l'on traverse. Il est urgent de considérer son corps comme le témoin politique d'une époque et d'investir les possibilités de transmission d'un point de vue nouveau et féministe. Merci de nous avoir écoutés, c'était l'émission Unique ou Rien sur Radio Vassivière. Vous pourrez retrouver un second épisode prochainement.
Rien de rien.
C'était les Uniques ou Rien sur Radio Vassivière.
Rien de rien.
Pour plus d'infos sur le programme que vous venez d'écouter, rendez-vous sur notre site web radiovassivière.com.
Ça m'est bien.